Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.
Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso du FC Que Choisir avec Arnaud aujourd'hui. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Votre micro n'est pas allumé. Voilà, il doit être allumé.
C'est mieux.
Hein. Aujourd'hui...
Alors, est-ce qu'on veut vraiment m'entendre? Je ne sais pas.
Bah, moi, j'ai eu le plaisir de vous accueillir en tout cas.
C'est gentil, merci.
Arnaud, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons parler des labels. Est-ce que déjà, vous pouvez nous définir ce que c'est un label?
La difficulté, c'est que pour préparer le sujet, il n'y a pas de définition juridique du label.
Ah.
Donc, ça va être compliqué de vous le définir, mais vous le visualisez tous. Et
oui.
Toutes, je pense.
On a déjà tous vu un label quelque part sur un produit, quoi.
Exactement. Sur un produit, même sur des services, maintenant, vous avez des labels qui sont censés vous rassurer sur la composition du produit, sur le respect de l'environnement, sur la traçabilité. Le plus souvent, on peut quand même le dire, c'est quand même un outil qui sert à promouvoir le produit, en fait. Hein.
Mmh.
Mais on se rend compte et on dénonce assez souvent que on est quand même beaucoup sur du marketing.
Ouais.
C'est-à-dire que tous les labels, et d'ailleurs, on utilise à tort des fois la terminologie de label parce que parfois ce n'est pas un label, mais parfois c'est juste des logos, en fait. Et des logos qui, en termes de marketing, vous pousserez en fait, à acheter. On est d'ailleurs souvent sur des pratiques commerciales assez trompeuses. Hein, mais effectivement, ça, on le voit de plus en plus. Il y a des distinctions assez simples. Bon, on va y revenir un peu plus tard, mais je fais en introduction. Par exemple, vous avez le label Agriculture Biologique, le AB,
hein, ouais.
En France, où là, on est vraiment sur... On se pose sur une réglementation en fait, hein, française, donc du coup il y a tout un respect d'une réglementation qui entraîne la possibilité pour le fournisseur d'apposer ce logo-là. Et après vous avez par exemple, vous savez sur les produits élus produits de l'année.
Oui, c'est vrai. Oui.
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de critères parce qu'il y en a. Mais on se fonde sur le vote d'un panel de clients. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins
scientifique,
scientifique quand même qu'une réglementation qui se base sur des faits, notamment effectivement scientifiques, où là c'est effectivement le panel des consommateurs qui viennent dire si ils aiment bien ce produit là ou pas. On est un peu moins on est plus sur du marketing que sur le reste, en tout cas.
On est sur du goût plutôt que sur j'allais dire la qualité du produit lui-même, quoi.
Oui, mais surtout que les consommateurs ne savent pas comment est-ce que ça a été réalisé, donc du coup on est uniquement sur le goût, est-ce que c'est bon ou pas. En plus c'est abstrait, je ne peux pas vous dire si mon collègue peut aimer ça et moi un peu moins, donc c'est vrai qu'il ne faut pas. Et il y en a énormément des produits élus produits de l'année en plus, ce qui devrait peut-être aussi vous faire
réaliser que bon,
il ne peut pas y avoir autant de produits
qui sont produits de l'année. Parce que normalement produits de l'année, il n'y a pas de S, hein, donc
exactement.
Est-ce qu'on peut parler des critères d'un label fiable?
Oui, son nombre de 5, par principe il y a un cahier des charges, donc c'est toutes les règles de fonctionnement, hein, qui sont prédéterminées, avec quelles sont les activités qui sont couvertes, les entités, les produits ou services qui peuvent être éligibles, les procédures pour candidater. Donc si vous produisez un bien ou un service, vous pouvez regarder le cahier des charges, est-ce que vous pouvez candidater ou pas, est-ce que vous rentrez dedans ou pas. Vous avez ensuite des référentiels, donc là c'est toutes les exigences que prévoit ce label, avec des critères, hein, qui sont et qui doivent être, pour être vraiment précis, les critères doivent être mesurables, hein, parce qu'il faut, qu'on puisse se fonder, comme vous le rappelez assez justement, il faut qu'on se base sur quelque chose de scientifique, de concret, donc il faut que ce soit précis, il faut que ce soit mesurable, pour qu'on puisse du coup les interpréter. Parce qu'après, c'est vrai que c'est des données qui doivent être interprétées et il faut qu'on puisse se dire si c'est plus ou moins bien que le référentiel qu'on a créé. Troisièmement, il y a un contrôle qui doit être indépendant. Ça, on le verra un peu par la suite, ce n'est pas toujours le cas. On doit en principe avoir ce qu'on appelle un auditeur qui doit venir et puis constater éventuellement s'il y a des écarts avec les critères du référentiel. Il faut qu'au-delà d'avoir un auditeur, ce qui encore une fois n'est pas toujours le cas, il faut qu'en plus l'auditeur soit indépendant. Et ça, c'est assez fondamental. Il faut que l'auditeur et la société ne soit pas en conflit d'intérêt en fait avec le demandeur du label, voire même avec le label, où là effectivement ça, là on serait sur une vraie problématique s'il n'y a pas d'indépendance de cet auditeur là.
Il faut pas qu'il soit jugé parti quoi.
Non, effectivement, mais on le verra plus tard, ça existe malheureusement. Et enfin une décision impartiale, c'est-à-dire que il faut pas que la décision finale d'attribuer ce logo là soit prise ni par les salariés du label ni même par l'auditeur. Et il faut qu'il y ait une troisième partie, donc souvent il y a un comité de labellisation ou parfois même il y a des assos de consommateurs qui font partie de ce comité, des scientifiques, des salariés du label effectivement, mais tous ensemble ils le décident et du coup ça, encore une fois ça renforce le côté d'un indépendant du logo, du label, excusez-moi.
Oui, bah on a bien compris que le label est un logo.
Le label est un logo. Et enfin, il faut une transparence hein, vis-à-vis du consommateur. Ça, c'est assez important. J'étais en train de rigoler du logo et du produit de l'année. Mais pour le coup, vous pouvez aller sur un site internet et clairement, c'est affiché c'est un panel de consommateurs qui le décide. Donc, en soi, vous devriez, même si vous faites le choix d'acquérir un bien ou un service qui est élu produit de l'année, vous devriez en conscience savoir, en ayant regardé au préalable, que ce logo, ce label, il se base sur ci, sur ça. Donc voilà, vous devriez pouvoir faire un choix éclairé en allant sur le site internet du label en question.
Alors on va parler des labels dans l'alimentation et je propose qu'on passe et qu'on commence par les certifications des produits bio.
Le plus connu, donc on en parlait, hein, de l'agriculture biologique, AB. Ça c'est un label qui est officiel et qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture en 1985. Il faut savoir qu'il est facultatif, à contrario du label logo bio. Vous savez, l'eurofeuille, et souvent d'ailleurs, des fois il y a les deux. Ou un ou l'autre, mais en tout cas si vous avez un produit bio, en principe vous avez l'eurofeuille européen. Donc il vous certifie que les denrées sur lesquelles sont apposées ce logo AB sont 100% bio, ou alors si c'est un ou des produits transformés, il faut au moins 95% d'ingrédients bio à l'intérieur. Le cahier des charges, il est identique hein, par rapport au label eurofeuille, donc européen. Il interdit l'utilisation des engrais et pesticides chimiques de synthèse, et encore l'élevage hors sol. Il interdit aussi les OGM, les additifs chimiques. Par contre, je l'ai déjà dit ici, le label bio ne garantit pas l'absence totale de pesticides, en ce sens que les pesticides naturels restent autorisés. Donc ils sont évidemment considérablement moins nombreux, mais les pesticides naturels sont tolérés, sont autorisés. Il accepte aussi donc les serres chauffées une partie de l'année, ce qui du coup en matière environnementale n'est
pas incroyable.
Et pas terrible, effectivement. Typiquement, il ne dit rien non plus de la taille de la ferme. On peut avoir des énormes fermes qu'on peut être amené aussi à dénoncer d'autre part. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir en tête. Et aussi, il ne dit rien du degré de transformation de la qualité nutritionnelle du produit. Et ça, c'est souvent le cas où une expérience personnelle, quand on me dit « j'ai acheté un produit bio », c'est bien, puisque nous, on promeut en fait le bio dans l'association, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mis un produit avec X% de sucre.
Ça joue pas sur la qualité gustative, enfin pas gustative, mais en tout cas du produit lui-même.
Totalement. Alors c'est vrai que c'est mieux à mon sens et à notre sens de passer sur des produits bio.
Entre un produit qui serait pas bio et le produit bio qui aurait à peu près finalement les mêmes ingrédients, vaut mieux celui qui est bio.
Exactement. Mais ce qui veut pas dire que c'est pas un produit qui est ultra transformé. Ça veut pas dire que le produit, il n'y a pas de sucre dedans. Ça veut pas dire que le produit soit ultra sain non plus. Il faut toujours s'en méfier.
Alors on vient de parler de l'agriculture biologique. Il y a quoi d'autre comme label produit bio ?
Il y a également Nature et Progrès. Alors là, c'est une marque associative. Donc c'est un mouvement citoyen qui l'a créé. C'est typiquement le même cahier des charges que sur l'agriculture biologique. Mais il y a des garanties supplémentaires avec par exemple l'accès au plein air, l'absence d'huile de palme, moins d'additifs qui seraient tolérés. Il n'y a pas de certification comme pour l'agriculture biologique. Et là, c'est assez intéressant parce que du coup, bah, vu que c'est issu d'un mouvement citoyen, on est sur la base de la participation. Ça veut dire que c'est un producteur qui effectue, par exemple, un audit en fait, chez un autre agriculteur qui sera accompagné d'un consommateur. Donc la démarche est assez intéressante et tous les deux, ils sont adhérents de l'association qui délivre ce label. Et ensuite, comme on le rappelait, il y a une tierce partie, donc une commission au sein de l'association qui viendrait récompenser via un label. Donc voilà, c'est assez intéressant, on peut le retrouver sur d'autres labels, mais on n'est pas assis sur une réglementation comme sur l'agriculture biologique.
Oui, donc quelque part, à vous entendre, c'est pas mal quand même comme label, c'est presque un peu supérieur.
Ça va plus loin parce
que l'agriculture biologique.
Oui, il y a une vraie démarche. Ouais. Il y a une vraie démarche supplémentaire que sur l'agriculture biologique, effectivement.
Il y a d'autres labels, du coup
Oui, je vais en citer en deux encore. Vous avez le label Déméter, qui sont c'est souvent sur le vin, en fait. Hein.
D'accord.
Où là, on est sur vraiment le cahier des charges, un des plus stricts, avec les engrais naturels qui sont autorisés en bio qu'ils ne seraient pas, avec des zones dédiées à la biodiversité. On est vraiment sur un label qui est très poussé. Pour celles et ceux qui recherchent du vin qui irait même plus loin du coup que l'agriculture biologique.
Ouais. Donc un bon label en tout cas, enfin un label un peu à retenir quoi. Hein.
Exactement, tout à fait.
Et un autre encore ou...
Oui, bon, on peut aller sur un dernier, sur le bio équitable, ça on le voit pas mal, qui certifie les produits hein, d'une agriculture biologique et paysanne avec des petites exploitations à taille humaine. Et française. Donc là encore, ils ont une démarche encore supérieure où du coup, ils promeuvent en fait les agricultures voilà, à taille humaine qui seraient pas démesurées. Et ils vont au-delà hein, des exigences du bio européen avec des aspects environnementaux, économiques, sociaux, avec des prix justes aux producteurs. Voilà, c'est des labels qui vont encore plus loin, c'est pour ça que je me permets de les citer.
Donc Déméter et bio-équitable. Alors on a vu les labels de produits bio, j'allais dire. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle tous les AOP et autres produits d'origine contrôlés.
Oui, ben ça c'est les signes d'origine, vous l'avez très bien rappelé, il y a l'AOP, donc l'appellation d'origine protégée.
Ouais.
Donc ça c'est un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine protégée au niveau européen. C'est une denrée hein, qui est réalisée selon un savoir-faire qui serait reconnu dans une même zone géographique. C'est soumis à un arrêté interministériel, donc c'est cadré. Au niveau français, nous, les produits qui seraient AOP au niveau européen, chez nous, on les appellerait AOC, donc appellation d'origine contrôlée.
Contrôlée, voilà. D'accord. Ouais.
Ce qui veut dire qu'un AOC est plus ou moins équivalent à AOP au niveau européen.
C'est ça, ouais. Autre signe d'origine, l'IGP, c'est ça?
Oui, l'indication géographique protégée. Alors, c'est la même procédure que pour l'appellation d'origine protégée. Ouais. Ceci étant dit, la définition change. Il faut qu'une étape au moins, donc parmi la production, la transformation, l'élaboration, ait lieu dans une aire géographique délimitée. Ce qui veut dire que le label IGP ne garantit pas l'origine géographique précise de toutes les composantes et de tous les processus de fabrication du produit. Donc, à choisir, si je puis dire. Je ne sais pas si vous avez un choix devant vous, mais c'est vrai que l'AOP garantit, lui, l'origine géographique précise de tout le processus de fabrication. Ouais. Alors que là, c'est vrai que le label IGP, par exemple, le produit peut juste être fabriqué à un endroit ou transformé à un endroit, mais ce qui veut dire que vous pouvez éventuellement le lait le chercher ailleurs.
Ouais.
Voilà, c'est un peu moins encadré, ou en tout cas il faut le savoir avant de l'acheter.
Je veux dire, c'est un peu comme dans les jus de fruits, le à base de quoi.
Oui, effectivement. Après, on peut aller encore plus loin. On peut dire le Made in France. Alors,
ouais, c'est, ouais, c'est ça.
La dernière transformation substantielle qui
fait foi en France. Voilà, bon, voilà.
Alors, en termes de label, on peut en faire des communiqués.
Ouais, effectivement. Dans les signes d'origine, il y a aussi le label rouge.
Effectivement, le label rouge, donc lui, certifie que le produit, il offre un niveau de qualité supérieur à celui d'autres denrées comparable, dit standard, de par ses conditions de production et de fabrication. Alors, sur la qualité du produit, il faut le dire, c'est vrai qu'il y a des analyses en laboratoire, mais il y a aussi un panel de consommateurs qui se prononcent. Donc voilà, c'est à savoir, c'est la petite critique du label rouge. C'est vrai qu'il y a les deux. Et donc il faut en avoir conscience avant de l'acheter.
Oui, c'est pas un gage parfait de qualité du produit.
Non, mais ceci étant dit, c'est vrai que le cahier des charges impose que le produit soit de meilleure qualité.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que il y a dans le jugement des consommateurs qui interviennent là-dedans.
Les produits bleu blanc cœur.
Oui, bleu blanc cœur, bah, pourquoi pas bleu blanc rouge aussi, mais bleu blanc cœur en l'occurrence. Oui, ça c'est une société coopérative qui l'a créé. Et donc là, le cahier des charges, il prévoit, c'est assez intéressant, de nourrir les animaux avec des aliments à forte teneur en oméga 3. Ça interdit l'huile de palme, ça prohibe le soja d'importation. Donc c'est assez intéressant, mais le label n'est pas bio. Et ça, c'est encore une fois la petite critique. Et les teneurs en résidus de pesticides et en antibiotiques doivent seulement être inférieures aux limites maximales fixées par la réglementation. Ce qui veut dire que c'est un peu mieux que du conventionnel.
Oui.
Ça, c'est sûr. Et puis après, ils sont sur d'autres choses. On l'a dit, sur la nourriture des animaux, sur l'absence d'huile de palme. Ils réunissent des choses, mais c'est vrai que c'est pas du bio. Et donc, du coup, il faut bien le savoir.
Très bien. Il y a les labels durables et environnementaux, comme par exemple la haute valeur environnementale.
Oui, ben ça, c'est un label qui fait parler, j'allais dire. Et sur lequel on est assez critique. C'est une certification qui a été développée par le ministère de l'Agriculture pour venir un petit peu à la rescousse des agriculteurs, alors qu'il n'y avait pas forcément d'argent à donner. Donc on s'est dit, on va créer peut-être une certification, pourquoi pas. Donc il y a un référentiel, évidemment, sur la biodiversité, sur l'irrigation, sur la fertilisation. Mais on est assez critique dessus aussi parce que c'est vrai que rien n'interdit l'utilisation d'engrais chimiques, ni d'OGM. Les antibiotiques, on peut y aller autant que l'on souhaite, en tout cas dans le respect de la réglementation. Mais on est sur typiquement à notre sens, hein, on est sur un logo qui correspond pas, qui ne garantit pas en fait une qualité supérieure du produit. Voilà.
On entend bien. Ouais. Ils consomment peut-être un petit peu moins d'eau pour le produire, mais après ça, voilà, on est sur des choses.
Voilà. Alors après, celles et ceux qui s'inscrivent dans la démarche, ça peut être aussi un point d'entrée.
Oui. Pour aller plus loin ensuite vers d'autres labels.
Donc il faut peut-être aussi le nuancer. Tout ça.
Le label. Alors celui-là, je ne connaissais pas du tout. Marine Stewart's
Council.
Ship Council.
Ouais. MSC Pêche Durable.
Ah oui, la MSC.
Ça,
oui, d'accord.
Vous le voyez.
MSC, on le voit, oui, effectivement.
Sur énormément de produits de la mer. Ça, c'est vrai. Dans les supermarchés, vous en avez plein. Alors ça c'est une ONG internationale qui l'a créé. Là aussi, énormément critiqué, ce label-là. Parce qu'on n'a rien sur les droits humains, par exemple les salariés qui sont malheureusement sur les bateaux, qui ne viennent pas forcément des meilleurs pays du monde et qui peuvent faire l'objet d'exploitation. Et les méthodes de pêche qui ne sont pas non plus forcément les meilleures, avec du chalutage de fond qui reste possible. Donc voilà, c'est aussi fait partie des... Comme HVE, c'est vrai qu'on est assez critique sur ces deux labels-là.
Le zéro résidu de pesticides, c'est quoi celui-ci?
Je vais reconsidérer. On est sur les trois labels qui nous semblent un petit peu limite, parce que là c'est pareil, c'est un label privé qui garantit l'absence de résidus de pesticides quantifiables dans les produits au stade de la consommation. Ce qui veut dire que ça ne bannit pas du tout les pesticides, mais dans la quantification, c'est-à-dire que dans la règle de quantification, on laisse une quantité de pesticides qui reste acceptable lorsque l'on mange, quand le consommateur mange le produit. Et donc, si on se situe en dessous de cette quantité-là, on peut se dire zéro résidu de pesticides.
Voilà.
en gros.
Ouais, compris. Donc, il voilà, y a quand même des résidus.
C'est un faux zéro. On a utilisé des pesticides. Ouais, donc, on les a. Et il y a des résidus quand on va les, quand bah on oui, va les manger, ça, c'est évident.
On va aller maintenant sur les derniers labels, label du commerce équitable. Et notamment, alors celui-là, il est un peu plus connu, Fairtrade Max Havelaar.
Oui, c'est vrai. Bah ça, et d'ailleurs, souvent, c'est souvent combiné avec le bio, d'ailleurs. Ouais. Pour celles et ceux qui fréquentent les magasins bio ou spécialisés, ou moi-même en hyper ou supermarché d'ailleurs, ils peuvent, parce qu'en oui, plus on peut avoir plusieurs logos sur un même produit, ça c'est, ça, c'est vrai, on ne l'a pas rappelé. Donc ce label-là, il appartient donc à la fondation du même nom. Il garantit le respect de certaines normes sociales, économiques et environnementales, avec le respect d'une rémunération qui serait correcte, de conditions de travail qui seraient décentes, d'une limitation de pesticides, de la gestion durable des ressources. La seule critique que l'on pourrait formuler, c'est que le contrôle, la certification qu'on a rappelé au tout début de la chronique, c'est réalisé par une filiale de cette fondation-là. En termes d'indépendance, oui, c'est pas pareil, ouais. Effectivement. Ça peut poser des difficultés.
Et le dernier label que vous vouliez nous présenter, dont vous vouliez nous parler, c'était toujours dans le commerce équitable, oui. Agri-Éthique France.
Oui, celui-là aussi, on le voit pas mal, et c'est une coopérative qui l'a créé. Donc là, ce label-là, il a pour objectif d'assurer, encore une fois, un revenu juste et durable aux agriculteurs qui seraient français, de préserver l'emploi et de promouvoir une agriculture éco-responsable. Donc là, l'organisme, par contre, certificateur est indépendant. Il est aussi agréé par le ministère de l'Agriculture. On peut raisonnablement lui faire confiance. Ceci étant dit, on est sur le logo commerce équitable, on n'est pas sur du bio et ça va. Et on peut avoir des pesticides dans ces produits-là.
Oui, on est plutôt sur le respect des personnes qui travaillent à la production de ces produits.
Exactement, tout à fait. En soutien aux agriculteurs.
Aux agriculteurs voilà. Notamment, oui. Eh bien, si vous voulez retrouver l'ensemble de ces labels et leurs explications, n'hésitez pas à réécouter cette chronique sur notre site internet www.rcn-radio.org. Je rappelle, Arnaud, que donc à l'UFC Que Choisir, vous avez souvent des dossiers de ce type-là hein, et qu'on peut les lire sur le site internet d'UFC Que Choisir notamment.
Vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez venir nous rencontrer. Vous pouvez déposer directement vos questions sur notre site internet, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer des mails. Voilà, c'est oublié, vous pourrez réécouter évidemment nos chroniques demain.
Ah, évidemment. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces
merci
informations.
Vous.
On vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt.
C'était le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir.